France Inter.
H30 dans le bureau de Par Jupiter.
Alors moi je vais vous dire, je suis prête pour 2022, même pas peur.
Avant toute chose, Charline, je récupère les autotests.
Ah ben bien sûr, je suis négative.
Ouais, fais voir.
Mais il me croit pas, et oh, voilà monsieur le réalisateur.
Réalisateur et...
Et responsable Covid de l'étage 6B de la maison de la radio.
Maison de la radio et...
Et de la musique. Bon, voilà. Sinon quand même, François, bonne année.
Hein. Je te préviens, je serai intransigeant. Hors de question qu'on commence l'année avec Omicron.
Bonne année.
Donc j'ai mis en place le plan rouge, autotest pour tout le monde, plusieurs fois par semaine, s'il le faut. Et on arrête de dire bonne année.
Pourquoi ça, c'est utile pour lutter contre le virus?
Non, parce qu'elle va pas l'être.
Bonne année.
Vous êtes pas au courant, hein?
De quoi? Du virus?
On ne dit plus bonne année.
Comment tu veux qu'il soit au courant? T'as fait comme Blanquer, t'as décidé ça hier.
Parce que nous, on n'est pas au courant.
De toute façon, vous ressortez.
Mais pourquoi on aurait contrôle des autotests?
Voilà, là, vous êtes au courant, j'ai envoyé un mail.
Ah non, mais moi je l'ai l'autotest, regarde, il est négatif.
Moi j'ai eu la Covid avant les vacances alors.
Et alors, qu'est-ce qui me prouve que tu l'as pas re-attrapé?
Mais ça fait 3 semaines. Bah et vous, qu'est-ce qui me prouve vous?
Nous on est clean. Allez Alex, la règle est la même pour tout le monde.
Mais j'ai pas d'autotest, moi je.
Pas de soucis. J'ouvre la pharmacie de Par Jupiter.
Oh!
Allez, viens, mon petit Alex, je te mets le goupillon.
Aïe!
Et ça ressort sans douleur. Qu'est-ce qu'on dit?
Bonne année?
Mais non, dis pas bonne année!
Bonjour, la France Inter, et meilleurs voeux de rigolade à tous! Bienvenue chez les coiffeurs visagistes de l'actualité, dont voici la devise « Vis chaque émission, comme si c'était la dernière ». Voici le sommaire. Les Africains seront les derniers à être vaccinés. Tout se passe donc comme prévu. La campagne de vaccination a pris beaucoup de retard. Certains pays sont obligés de détruire des centaines de milliers de doses périmées. Et l'objectif fixé de 70% de la population vaccinée ne sera atteint qu'en août 2024.
Maman, tu comprends, être en retard, ça fait riche.
Voilà, c'est ça. La fête est finie depuis plus longtemps qu'on ne le pense. Notre ramollissement existentiel a commencé avant l'arrivée des annonces de Jean Castex dans nos vies. La preuve, en 30 ans, 70% des boîtes de nuit ont fermé. Et la fête s'est privatisée dans nos appartements. Donc on ne se mélange plus beaucoup. Donc on se fait chier, quoi.
Tu vois, il y a toujours un moment charnière dans les soirées où je commence sérieusement à me faire chier. Et là, c'est maintenant, par exemple.
Il aurait été dommage de ne pas commencer cette année sans parler du communautarisme. Est-ce qu'il existe un rire communautaire? Et si oui, tous les humoristes passés par le Jamel Comedy Club en sont-ils les représentants? L'humour belge, est-ce un communautarisme? Si oui, bon, enfin, tout ça, à quoi ça ressemble dans le fond?
C'est très curieux, c'est... à ma foi sans le vouloir, j'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif.
Ah
non, non. Je crois que c'est quand ce n'est pas rigolo et que ça ne parle pas de saucisse.
Sans transition, oui. À mes côtés aujourd'hui, pour cette première émission de 2022. Alex Vizorek.
En l'occurrence, c'est tout l'inverse, puisque c'est très rigolo et ça parle souvent de saucisses. Allez, on y va, je vous présente le reste de l'équipe à 17h20. Celle qui, encore cette année, va venir nous expliquer ce qu'on doit écouter comme musique, alors qu'elle a passé son nouvel an à faire la chenille. Bonjour, Aline Afanoukoué.
Bonjour, big bisous, tadadadadada, la chenille.
De quoi on parle?
Des artistes qui potentiellement vont cartonner en 2022.
Il y a du coup de cœur.
Ou du gros coup de cœur.
17h30, celui pour qui c'est la grande année, puisqu'il la commence dans un T2 à Montparnasse et qu'il va probablement la terminer à l'Elysée.
Oui,
c'est Guillaume Meurice.
C'est exactement cette année-là. Bonjour à tous. Première chronique de l'année, l'avenir est incertain, mais vous inquiétez pas, comme tous les ans, j'ai appelé Magda, ma voyante préférée, pour savoir ce qui nous attend et notamment ce qui m'attend, moi.
Je vous vois mort, je vous vois enterré, je vous vois le cancer.
Bon, une bonne année. Une bonne année à tout le monde.
Et enfin, 17h40, celui qui a passé sa soirée de Nouvel An à faire gagner des flûtes à bec sur France Inter. Bref, le Père Noël de la gauche mélomane, c'est vous, Thomas VDB, bonjour.
Oui, bonjour, bonne année.
Bonne année.
Bonne santé. Parce que ça fait 11 ans à peu près que je fais des chroniques sur France Inter. À chaque fois, j'ai trouvé moyen de souhaiter bonne année de façon originale et rigolote, mais je suis arrivé au bout de mon stock de blagues de bonne année. Ma besace, c'est complètement vide.
Et voici celui qui va nous aider à ambiancer cette émission. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Stéphane Bach.
Oui, c'est lui.
J'ai eu peur.
C'est la bonne réponse.
C'est la bonne réponse.
Alex Vizorek.
par Jupiter.
Bienvenue Stéphane Bach.
Merci beaucoup.
On est très heureux de vous accueillir, d'autant que vous êtes le premier invité de l'année. Vous avez 25 ans. Il y a 10 ans, vous étiez le plus jeune humoriste de France. C'est-à-dire qu'adolescent, vous étiez même déjà chroniqueur au Grand Journal, notamment quand le plateau était installé à Cannes. Et aujourd'hui, vous êtes acteur. Alors, vous avez même déjà tourné sous la direction de Paul Verhoeven, Wes Anderson ou André Téchiné. Et cette fois, vous tenez le rôle principal dans le film de Robert Guédiguian, qui sort mercredi, Twist à Bamako.
Un Twist film...
Oui, j'ai dit quoi?
Twist à Bamako, j'aime bien, c'est une autre version.
C'est comme 8.
C'est ça, bah oui, Charline.
Ils sont belles, pardon, excusez-moi. C'est vous qui avez raison, Charline.
On va repasser au ralenti.
Ah, c'est vrai.
J'ai dit Twist.
Twist à Bamako.
Voilà.
Okay, ça ajoute un nom, mais ça ajoute un goût particulier, moi j'aime bien.
Sinon les gens ils vont se tromper de film.
Non, on est le 3 janvier, on va vraiment commencer 2022 comme ça, vraiment, sérieux.
Changer de danse.
Nous on fait comme si c'était normal.
Vals à Bamako. Okay. Alors,
voilà, donc tut à Bamako. Un film historique et social tourné en Afrique de l'Ouest. Vous incarnez Samba, le fils d'un chef d'entreprise, donc privilégié, hein, qui s'emploie à propager l'idéologie socialiste au Mali. Et cela au lendemain de l'indépendance. Nous sommes donc à Bamako dans les années 60. Et votre personnage, Samba, ce jeune militant socialiste, il va tomber amoureux d'une jeune fille qui avait été mariée de force et qui l'aide à fuir son village. Alors Samba, il est représentatif de qui ou de quoi de cette époque-là au Mali?
Est-ce que vous pouvez redire Samba de nouveau parce que ça a un goût particulier, c'est comme Suisse.
Ah.
J'aime beaucoup. Donc, s'il vous plaît. Juste pour mon propre plaisir.
Donc là, vraiment, vous avez décidé d'en remettre une deuxième fois. Très bien. Alors, il faut dire comment.
Non. C'est juste que j'apprécie, en fait. J'apprécie ce ton nouveau, cet accent belge.
Vous êtes charmant. Déjà, je tiens à dire quelque chose, c'est si nous recevons Stéphane Bach, c'est que Jean-Sébastien n'était pas disponible. Donc déjà, ne la ramenez pas trop.
Premier jeu de mots.
Ouais,
il est là.
Est-ce qu'on peut parler de ce film à un moment? Donc votre personnage, il est représentatif de qui ou de quoi à cette époque-là au Mali?
Ben, il est représentatif, je dirais, Samba, d'une jeunesse pleine d'idées, d'une jeunesse qui veut foncièrement réformer son pays. Et voilà, il est représentatif de cette lutte des classes qui s'opère à ce moment-là au Mali. Et moi, ce que j'aimais dans la proposition de Robert, c'est d'enfin voir au cinéma, surtout dans le cinéma français, ça arrive de le voir au cinéma en général, mais de voir des Africains qui parlent eux-mêmes de leurs problèmes, qui en parlent bien, de manière éloquente. On peut voir on peut voir tous les pans de la culture africaine et de la communauté africaine au Mali. Mm-hmm. Et c'est ce que j'aimais dans ce film-là. Donc voilà, ce film, il représente un peu tout ça.
Il y a les traditionnalistes.
Les commerçants qui veulent rester ancrés, voilà. On a aussi, cette jeunesse socialiste qui s'oppose. Enfin voilà, je trouve que justement, on montre beaucoup de choses dans ce film.
Cette jeunesse qui est aussi influencée par toutes des figures comme Thomas Sankara.
Comme Sankara, Mumba, comme Mumba, comme Césaire, comme pas mal de gens en fait.
Et par Salut les copains.
Par Salut les copains. Par Salut les copains. Alors ça, je soupçonne que ce soit le goût de Robert Guédiguian qui voulait instiguer. Non, je déconne. Non, en vrai, de vrai, quand on se penche par exemple sur les photographies de Malik Sidibé, auquel on rend hommage dans le film, on peut voir justement que tous ces gens-là dansaient au rythme de Chubby Checker, de Claude François. C'était la décolonisation, donc on était encore en plein dedans. Il y avait ce fameux Happy Boys Club à Bamako qu'on a recréé, on a reconstitué. Et en fait, j'avais pas connaissance du fait que l'Afrique était si, on va dire américanisée, francisée, même au niveau de la musique. Et ça a été une vraie prise de conscience.
Oui. Donc votre entourage et votre personnage militent la journée, mais dansent le soir aussi.
Totalement.
Est-ce que
un
ce
peu
film...
comme vous.
Oh, mais complètement.
Bien vu.
Un biopic sur la vie de chaque jeune. Quand elle twiste.
Oh là là, mais je
Quand elle twiste. Le soir, elle va
twister. Ouais. Ouais, elle twiste.
Je mets le feu, on danse fleur. Stéphane Bach, est-ce que ce film vous reconnecte à un passé familial éventuellement?
Oui, le film me reconnecte à un passé familial parce que déjà pour pouvoir construire le personnage de Samba, j'ai pu me renseigner auprès de gens de ma famille qui ont vécu les indépendances françaises à ce moment-là. J'ai pu parler aussi avec des gens des jeunesses de Modibo Keïta et d'avoir l'occasion juste dans le cinéma français de pouvoir raconter cela et de le vivre pleinement. Ouais, ça me reconnecte. Mmh. Enfin, je me sens constamment connecté, hein, faut que je le dise.
Robert Guédiguian, c'est l'un des réalisateurs français les plus engagés. Est-ce que vous, en tant qu'acteur et qui a le rôle principal, hein, avec Alice Dalluz-Gomez, ça représente un engagement pour vous aussi?
Ça représente quoi?
Je sais pas, moi j'imagine que mon rôle se cantonne à respecter la partition qui m'est donnée, donc je sais pas si ça relève de l'engagement. Après peut-être que Oui, sur un plan plus personnel, je dirais que oui quand même, parce que là dans tout ce que je vous raconte, c'est vrai que j'ai l'occasion quand même de jouer d'autres choses, de jouer des choses qu'on voit pas forcément au cinéma français. Donc ça relève de l'engagement. Et puis de toute façon, avec Robert, on est obligé de finir dans son engagement d'une manière ou d'une autre. Il est comme ça, c'est un communiste, hein, c'est comme ça. Hein, c'est...
Rappelons que vous soutenez Éric Zemmour par ailleurs, personnellement.
Donc ce tournage au Goulag, ça s'est bien passé quand même, vous avez par être libéré. Et vous-même, il y a des grandes figures révolutionnaires de cette époque qui vous parlent. On évoquait Sankara, Lumumba, il y en a bien d'autres.
Lumumba, elle me parle parce que étant afrodescendant du Congo, c'est une figure dont on a beaucoup entendu parler tout au long de notre enfance. Donc comme je vous l'ai dit, ouais, Lumumba, Sankara, Kwame Nkrumah, toutes ces figures-là me parlent effectivement.
En tant que Belge pour Lumumba,
c'est vrai que je suis en train de parler de Lumumba avec des Belges, j'avais oublié.
Nous, on était en train de voir un coup pendant qu'ils ont décidé ça, et du coup on n'a pas eu le temps de
pour une fois qu'on y est pour rien.
Et enfin dans ce
côté belge aussi, Guillaume,
non justement
dans ce Mali des années 60, au lendemain des indépendances, avec l'idéal socialiste de l'époque, etc., qui pourra aussi mal tourner d'une certaine manière, il est question de mariage forcé, de tomber amoureux d'une fille que vous aidez à s'échapper de son village et de sa prison intérieure. En fait, votre personnage était veillé au féminisme. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, il y avait aussi cet éveil-là chez certains.
C'était une vraie question au moment de l'indépendance et du rêve de Modibo Keïta. La question des femmes se posait clairement au Mali. Ce personnage, il est totalement empreint de féminisme. Aussi, je sais que ce personnage, c'est un peu une sorte de réflexion de Robert, qui lui militait à ce moment-là, mais en France. Et donc du coup, je pense qu'il a aussi voulu parler de ce féminisme universel qui était aussi très présent en Afrique. Mmh.
Stéphane Beck, donc, qui joue dans Twist à Bamako.
Bravo !
Qui sort en salle mercredi. Et j'en profite pour embrasser Juliette Arnaud, qui achève un petit isolement Covid. On l'embrasse très fort, on la retrouve cette semaine,
elle revient.
En attendant, Ben Harper, With My Own Two Hands. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands, with my own two hands. With my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you, oh, with my own two hands, with my own two hands. It a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. Two hands.
gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. Oh, make it a brighter place. I can hold you and I comfort you. But you
Ben Harper sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter en compagnie de l'acteur Stéphane Bach. Et pour l'entourer, Alex ?
Eh bien, il y a Alina Fenoukoué qui va nous parler de ses coups de cœur, Guillaume Meurice et la voyance, on va savoir ce qui va nous arriver toute cette année, et Thomas VDB qui ne nous souhaitera pas une bonne année parce qu'il a fait les 10 précédentes fois.
Un journal déjà très nourri, les amis.
Restons unis, bienveillants, solidaires. Restons du côté de la vie. Alors, 2022 sera l'année de tous les possibles.
Le journal de presque 17h17.
Maman, je crois que ça va être encore une année compliquée.
Et on commence par les titres.
Le gouvernement a dévoilé hier les nouvelles règles d'isolement.
Alors, j'ai essayé de comprendre et je dois avouer, j'ai eu moins mal de tête la semaine où j'ai eu la Covid.
Le ministre de l'Éducation, oui. Jean-Michel Blanquer, a aussi annoncé hier le nouveau protocole sanitaire dans les écoles et ce, juste à la veille de la rentrée.
Et ouais, visiblement, il ne s'est pas mis à la place des professeurs. En revanche, il s'est mis dans la peau des élèves qui n'ont rien foutu pendant toutes les vacances et qui torchent leurs devoirs le dernier jour à l'arrache.
Et les brèves ?
Et oui, le protocole reste inchangé, Charline, de brèves en fin de journée. Que tout le monde adore, sauf vous qui râlez un peu.
Oui, ça c'est pareil que... Oui.
Comme avant. Et on commence par une éphéméride.
Oui, aujourd'hui, lundi 3 janvier, c'est l'anniversaire de Christophe Castaner.
Ah mais c'est pas vrai.
C'est excellent.
Hein, non mais il n'y a pas de vanne.
Ah, pas besoin. Vous dites Christophe Castaner, moi ça me fait marrer.
Bon bah allez, alors on va commencer plutôt par Valérie Pécresse.
Eh oui, invité ce matin sur RTL. Alors Yves Calvi lui a posé une question pourtant simple.
Êtes-vous avec des mots très simples capable de dire ce qui est votre principale qualité et votre principal défaut?
Ma principale qualité, c'est que je suis tenace.
Oui.
Et mon principal défaut, c'est que je suis perfectionniste.
Non.
Elle a hésité avec irréprochable et brillantissime.
Toujours chez LR, Éric Ciotti était l'invité de BFM TV ce matin où il a dit qu'il n'est pas favorable à la vaccination obligatoire, mais qu'il votera le pass vaccinal parce qu'il croit au vaccin.
Voilà, ouais. Éric Ciotti, quand il va au restaurant, il commande une entrecôte parce qu'il est végétarien.
Voilà. C'est comme ça. Gouvernement, il a décidé que les règles de quarantaine actuellement en vigueur allaient être allégées.
Voilà, allégées. 200 000. Je vais pas vous mentir, il y a des films de David Lynch que j'ai mieux compris que les nouvelles règles. Je vous le dis comme ça.
Mais rassurez-vous, attention, pour Olivier Véran, je le cite, la cinquième vague sera peut-être la dernière.
Et oui, et c'était un peu la tradition, mais j'étais pas au courant qu'Olivier Véran remplaçait Elisabeth Tessier pour l'horoscope de l'année nouvelle, mais c'est gentil.
Et puis, première polémique de l'année, c'est la polémique de Nouvel An. Le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe a été retiré. Sa présence avait provoqué beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.
Et oui, on casse l'Arc de Triomphe, ça s'indigne. On l'emballe, ça s'indigne. On met le drapeau en dessous, ça s'indigne. Est-ce que la solution, ce serait pas de raser l'Arc de Triomphe? Et ben voilà, deux triomphes.
Deuxième polémique de l'année, ça va très vite. Le 1er janvier, 547 personnes ont été décorées de la Légion d'honneur et parmi elles, l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Je peux vous dire qu'en entendant l'info, Sibeth Ndiaye et Alexandre Benalla n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris pourquoi ils y étaient. Quoi.
Sport maintenant, du tennis après Benoît Paire, c'est Richard Gasquet qui est positif au Covid et qui a été placé à l'isolement en Australie.
Beau résultat, là, comme ça, les Français engagent deux résultats positifs en grange d'affilée. C'est très très rare en tennis.
Et puis, science, des chercheurs ont trouvé où se situait le clitoris.
Alors, écoutez,
jusqu'au bout.
Ah, pardon, c'est
je répète, des chercheurs ont trouvé où se situait le clitoris dans le cerveau.
C'est la vraie plus-value de la science. Moi, je ne pensais pas du tout le chercher là.
Vous n'êtes pas le seul. Allez, les brèves.
Comment vous le savez-vous?
Je parle beaucoup avec votre épouse.
En Israël, un premier cas de Flurona a été détecté. Le Flurona, c'est la double infection grippe et Covid. Je ne suis pas médecin, mais je pense que les virus, c'est comme l'alcool. Évitons les mélanges. Voilà.
Et la dernière,
un scientifique japonais a inventé un écran léchable pour goûter des saveurs. Alors, c'est très sympa quand on regarde Top Chef. Je déconseille de l'utiliser pour suivre le magazine de la santé spécial Panari.
Ça marche vraiment?
Ça marche vraiment, j'en sais rien. Demandez à Manuel Valls s'il a regardé les allocutions d'Emmanuel Macron en boucle.
Merci Alex Vizorek. Stéphane Bach en notre compagnie et on va aborder ce premier thème. Le vaccin n'est pas encore entré dans l'homme africain. Les doses se font si rares sur le continent que l'objectif de protéger 70% de la population ne pourra être atteinte visiblement qu'en août 2024, soit 2 ans après le reste du monde. La plateforme internationale COVAX est pourtant censée garantir un partage équitable du vaccin et une solidarité nord-sud, et elle a bien merdé. Elle est pilotée par l'OMS, organisation internationale, c'est donc un petit peu une histoire qui se répète. Écoutez.
Monsieur Delaville.
Oui.
Tout à l'heure, vous avez dit que c'est la communauté internationale qui vous envoie ici pour suivre nos élections.
Oui, suite à une résolution du Conseil de sécurité.
Ah, donc ça veut dire que la communauté internationale, c'est le Conseil de sécurité.
C'est l'émanation, voilà, de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est ça.
Tu sais ce que je te disais ? On n'est pas dans la communauté internationale.
Non. Si, bien sûr, si. Vous en faites partie, mais...
Mais c'est le Conseil de sécurité qui prend les décisions à notre place.
Ouais.
C'est comme dans une famille. Le papa prend une décision, le reste de la famille obéit.
Oh, mais qu'est-ce que tu racontes là ? Dans une famille, le papa et la maman décident ensemble à égalité.
Oh, tais-toi là-bas. C'est pas parce que ta femme te commande à la maison que tu vas penser que c'est comme ça chez toi.
C'est Michel Gohou, Digbeu Cravatte et Antoine Duléry dans Bienvenue au Gondwana, le film de Maman, pour cette métaphore. Alors, à la lumière de ce qui est raconté dans le film, attention, je vais le prononcer, vous allez tous rigoler très fort. Twist à Bamako. À la lumière de ce qui est raconté dans le film, voilà, des indépendances, de la révolution socialiste, etc., vous trouvez un peu une résonance avec ce sujet de l'accès au vaccin des populations pauvres sur le continent.
Oui, enfin, on a l'impression juste que c'est des schémas perpétuels. Moi, je trouve ça totalement effarant de se dire que il y a 8% de la population africaine qui a accès à un schéma vaccinal complet, face à 70% de la population européenne. Donc cette pandémie, moi, j'aurais pensé qu'elle nous aurait soudés, on va dire, et on se retrouve en fait dans les mêmes tares. Et je sais pas. J'écoutais l'autre jour Thomas Piketty sur la même radio qui appelait justement à lever les brevets sur les vaccins. Et je me dis juste pourquoi on n'écoute pas enfin tous ces genres de suggestions, parce qu'il faudrait en faire en fait une propriété, un bien public. Il faudrait le faire tout simplement.
Petit indice de pourquoi on le fait pas, l'argent.
C'est là qu'il y a un lien avec le film, c'est parce que à cette époque au Mali, l'histoire des terres divise les patrons,
bien sûr,
qui disent nous, c'est à nous les terres, et l'idéal socialiste qui dit la terre appartient à l'État, doit être partagée par tous.
Totalement, c'est que des schémas qui se superposent, on en parle 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, donc c'est un peu dramatique, il faut qu'on fasse mieux, et c'est pour ça qu'il faut aller voir Twist à Bamako pour tirer des leçons de tout ça.
Le personnage Samba, vous avez dit, je l'ai bien dit cette fois. Je l'ai dit à la française.
C'est vrai que vous l'avez bien dit, ça m'étourdit carrément.
Si bien dit, c'est dit à la française, d'accord. Alors, on parle de Twist à Bamako, si on peut prendre en compte un petit peu la francophonie et éviter cette ethnocentrisme. Mais bon, votre personnage, il serait vent de vous, il aurait pris position là-dessus.
Il prenait déjà position. Si vous regardez le film, c'est le premier à distribuer de la chloroquine un peu partout, Samba, vous voyez. Donc il était présent, Samba.
Alors, Alina Fanoukoé,
oui.
Pour cette chronique qui nous lance l'année, il y a une espèce de playlist à chauffer.
Il y a des coups de cœur qui vont vous plaire. Je vous ai concocté une petite sélection de petites pépites dont nous allons certainement entendre parler cette année. On va commencer crescendo avec la voix d'Ange, envoûtante de November Ultra, talentueuse chanteuse hispano-française autodidacte et qui fabrique des sons aux sonorités folk, soul, R&B pour elle, mais aussi pour d'autres comme Jaden Smith, le fils de Will. Cause I don't really want us to, but I don't really want us to break. Yeah, I gon' let you go so soon, even though I know there is no future for you and me. It's you or me, it's you against me. Le premier EP de November Ultra, Honey Please Be Soft and Tender, est un petit bijou déjà disponible. Elle sera en concert au studio 104 de la Maison de la Radio dans le cadre du festival Hyper Weekend le vendredi 21 janvier. Alors ça, c'est une bonne occasion, j'espère que ça tiendra. On change de décor. Un autre diamant brut dont on parle comme la nouvelle boss du rap féminin, la relève tant attendue après Diams en France, c'est vous dire le Juice. Benny m'a dit ce qu'il leur faut, c'est du sale. Dans toutes les sauces, tu mets ton grain de sel. Je manque de respect, tu vas goûter le sol. Avec moi, mal dominant, deviens docile. Tu veux mon hume, c'est mort. On travaille pendant que tu dors.
prends la prod à bras le corps. Mon tableau, maman veut le disque d'or. Tu l'attrapes, maman. Toujours dans la kitchen, sa cuisine des putains de flow ou un bon garba. J'impose le respect parce qu'on a toujours fait de la moula. T'as rien à m'apprendre, ce que tu fais, j'ai fait bien avant toi.
J'adore. Le Juice a commencé sa carrière après des études dans la finance et un voyage à New York qui fit une révélation. Ses textes sont ciselés, clairvoyants, bourrés de punchlines qui font mouche. Elle combine ses origines ivoiriennes avec un son urbain très personnel. Elle est surnommée Trap Mama, comme son premier album, et son label Trap House. Elle n'a pas fini de faire parler d'elle, surtout sur scène. Il faut vraiment que les concerts reprennent à fond parce qu'elle fait vraiment la différence. Elle est d'ailleurs dans le documentaire Reine sur Canal+, si vous avez l'occasion de la voir. Pour terminer, un vent de soul vintage. Mon coup de cœur vraiment aussi là, amené par une sublime voix qui fait son retour avec un nouvel album dont le but est simplement de nous guérir. C'est Lady Vray. Lady Vray qui va vous faire hocher la tête avec la petite moue qui va avec, là, qui vient direct dès le premier craquement de la caisse claire. Le résultat de l'alchimie avec le producteur Leon Michaels, fondateur de plusieurs éminentes formations de soul comme L. Michaels Affair ou encore Sharon Jones and the Dapkins. C'est la qualité, hein, tout simplement, en un mot. Ensemble, ils repoussent les limites du R&B et de la soul actuelle.
Still, baby, will you love me still? Oh, still, baby, will you love me still? Oh, still, oh, still. Through It All. C'est Lady Vray qui était enceinte de 8 mois quand elle a enregistré cet album. Je peux vous dire que toutes les prises ont été directes dans la boîte. Comme il faut, l'album sort le 28 janvier et s'appelle Piece of Me. Donc on retient November Ultra, le Juice.
Ouais.
Et Lady Vray.
Ouais.
Ouais, cool. On en reparlera.
Très bien. Merci Alina Fanoukoé. Bien sûr, tout cela se retrouve sur le site France Inter et la page de notre émission, évidemment. Nous sommes en compagnie de l'acteur Stéphane Bach qui joue dans Twist à Bamako, Mon orthophoniste vous embrasse. le film de Robert Guédiguian qui sort en salle mercredi avec aussi Alice Dalouse-Gomez, Saa Bobaldé, Bakary Diombera. Que des acteurs africains, français aussi, mais je veux dire, Sénégalais, Maliens, etc. Il y a eu un échange d'expériences avec eux, parce que il y a beaucoup d'acteurs sur le continent. Vous avez tourné au Sénégal.
Oui, énormément. Ouais. On a tourné. On avait des acteurs burkinabés, on avait des acteurs maliens, des acteurs sénégalais. C'est vrai qu'il y avait une vraie cohésion. Et puis ce qui était beau,
le panafricanisme, qu'espérait le socialisme à l'époque.
Exactement. Non, mais ce qui était beau, c'était de se dire qu'on avait l'idée et la chance de pouvoir rendre cet hommage, d'avoir enfin un document au cinéma qui raconte cette période de l'histoire qui est très importante. Et on avait tous à cœur cette mission-là. Dans tous les postes, vous pouviez voir, que ce soit les décorateurs, que ce soit les techniciens, que tout le monde avait vraiment envie de raconter cette histoire africaine et de pousser ce message-là. Donc c'était vachement beau. D'ailleurs, on a dû stopper la production du film à cause de la Covid-19. On est revenu peut-être 7 mois plus tard, après le premier confinement. Et la joie de retrouver tout le monde, on voyait qu'en fait, tout le monde nous disait, moi, j'avais pas envie de faire un autre projet, je vous attendais. J'étais prêt, je me disais que c'était ça qu'il fallait qu'on fasse, qu'on raconte cette histoire. Donc on a été... c'était une expérience vraiment assez singulière.
Bamako pendant les 60s.
Exactement.
Guillaume Meurice, oui. Oh là là, vous revenez en forme, ça me fait très très peur.
Bah oui, surtout qu'elle est bien partie cette année 2022, dites donc. Oh là là, on a commencé très fort avec la polémique, la fameuse sur le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Alors moi j'aime bien le drapeau européen parce que c'est vraiment un appôt à cons. Dès qu'on le pose quelque part, il y a des cons qui viennent gueuler dessous. Et ça c'est pratique pour la pêche à la connerie. Et je vous avoue que l'année s'annonce excellente, hein, en termes de pêche à la connerie. Puisqu'on parle de conneries, bah parlons Jean-Michel Blanquer. Hein, je vous rappelle que Jean-Michel Blanquer, c'est cet artiste contemporain qui se fait passer pour le ministre de l'Éducation nationale. Et qui propose des protocoles toujours plus cons les uns que les autres, si possible au dernier moment, pour tester un petit peu la résistance de la société à l'absurde. Et ça tient vachement le coup. Pour l'instant, personne l'a démasqué. Mais est-ce que ça va être vraiment une année à la con? C'est ça la question qui se pose. Alors pour le savoir, j'ai pas pris de risque. J'ai fait comme tous les ans. J'ai appelé Magda. Magda, c'est ma voyante préférée, qui entre deux prédictions fausses ne se trompe absolument jamais. Alors commençons par le commencement. Cette année, est-ce qu'on va avoir des nouveaux variants?
Je vois et je persiste à dire qu'on va sortir encore, qu'on va voyager encore. Les variants vont être légers. Voilà. Vous savez que je suis une voyante optimiste.
Ça veut dire quoi, une voyante optimiste?
Moi, je ne vois pas toujours les morts, les catastrophes.
Voilà, oui, ça c'est bien. Elle ne voit pas les morts et les catastrophes. Magda, c'est une voyante optimiste. Magda, en 1939, elle aurait dit « Alors, je vois que dans quelques années, la 7e compagnie au clair de lune va cartonner au cinéma. » Elle voit toujours vraiment le bon côté des choses, Magda. C'est plutôt chouette. Par exemple, le variant, pourquoi il est là?
Ils mettent le variant pour que les dealers et tout ça diminue un petit peu. Hein, il y a eu trop d'exagération.
Attendez, j'ai pas compris le rapport là, Magda.
Oui, les discothèques et tout ça, c'était un peu l'encouragement à tout ça.
Mais alors là, ça veut dire que c'est pour lutter contre les dealers?
C'est pour arranger notre société, pour la faire moins décadente.
Eh oui, voilà. Ils mettent le variant pour fermer les discothèques et ainsi pénaliser les dealers. Ça, c'est assez malin. Alors évidemment, pour aller au bout du processus, faudrait fermer aussi les bureaux de la programmation musicale de France Inter. Mais je dirais que c'est quand même un bon début. Voilà. Alors évidemment, ce qui nous intéresse cette année, c'est l'élection présidentielle. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle dit, Magda?
Je dis sûrement Macron encore, quoique je ne suis pas toujours très sûre de moi.
Ah, qu'est-ce que dit la voyance?
Pour moi, ils vont être très, très serrés. Pécresse et lui.
Là, vous lisez l'avenir dans les sondages un peu, Magda.
Non, je ne peux pas me laisser influencer, vous voyez.
Oui, je vois bien. Je vois bien. Mais comme Magda, elle m'avait prévu la victoire de Fillon début 2017, je suis un petit peu méfiant. Hein, c'est normal. Et Zemmour, alors, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Que dit la voyance? Que dit l'astrologie?
Ah oui, les vierges. Il aurait été lion, c'est sûr qu'il passait. Mais là, vierge, il ne peut pas passer.
Mais alors, il aurait été lion, ça aurait tout changé.
Lion, c'est le signe du pouvoir.
Ah, alors, ça se joue pas du tout sur les programmes, alors. C'est vraiment le signe.
Vous prenez Churchill, Louis XIV, Napoléon, Juppé.
Ah, voilà, ouais, c'est ça. Voilà, le carrière, hein, comment dire. Voilà. Churchill, Louis XIV, Napoléon, Juppé, tous des lions. Alors, bon, Juppé, ça a été loupé aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une date de péremption chez les lions. Hein. Peut-être que c'est comme les yaourts. Et les poissons aussi, parce que figurez-vous que qui est poisson ?
Vous ?
Mais non, Philippe Poutou.
Mais non,
et bah, oui, on sait tous qui va gagner au fond de nous. Oui, on le sait, voilà. On sait que c'est la personnalité préférée des Français, hein, selon Punk Achia Magazine. Mais Magda, qu'est-ce qu'elle pense de Poutou ?
Oui, la politique, c'est son truc. Oui, mais pour arriver à la présidence, ça, c'est un autre sujet. Je ne pense pas qu'il peut être élu. Qu'il prenne une charge, tout ce que vous voulez.
Il pourrait être ministre, alors ?
Voilà, quelque chose comme ça, ça c'est sûr.
Ah bah c'est déjà pas mal. Ah bah c'est déjà pas mal, voilà, Philippe Poutou, ministre. Il pourrait être ministre de l'emploi de Nathalie Arthaud, par exemple. C'est vrai que c'est pas mal, c'est des choses qui sont envisageables. On peut tout imaginer, faut rêver aussi, hein. Il y en a bien qui rêvent de la victoire de la Belgique à la Coupe du Monde de foot. Eh ouais, elle arrive aussi.
Elle l'a vu.
Calmez-vous, qu'est-ce qu'elle en pense, Magda ?
Alors regardons qui va gagner pour vous.
C'est sûr.
Voyons qui peut gagner encore. Qui a gagné l'année dernière ?
Ah bah l'année dernière, il n'y a pas eu de Coupe du Monde.
Ah, bien sûr.
C'est vrai que vous lisez l'avenir, mais vous lisez pas le passé.
Non, on peut pas tout faire, hein, on peut pas tout faire. Alors pour ceux qui veulent lire le passé, bah alors voilà, on sait que c'est le Qatar qui a gagné le droit de l'organiser, que des milliers d'ouvriers sont morts pour construire les stades climatisés, qui vont donc réchauffer l'atmosphère à l'extérieur pour la refroidir à l'intérieur parce qu'il est trop chaud à l'extérieur. Hein, quand je vous dis que c'est l'année de la connerie, attention, hein, on est vraiment, voilà, on va repousser les limites. Mais est-ce que Alex va pouvoir fêter la victoire de son équipe avant de mourir étouffé par du CO2 ou par la honte de ne pas avoir boycotté?
Bon, alors je vais regarder si la Belgique peut réussir. N'inquiétez pas.
Ça, c'est... Elle a pris des ustensiles.
Non, mais ils sont proches de la victoire, si vous voulez.
Ouais, mais ils sont proches de la victoire, mais ils vont perdre.
Ils ne vont pas gagner à 100%.
Hein. Voilà. C'est pas qu'ils vont perdre, c'est qu'ils ne vont pas gagner à 100%. Hein, c'est comme Macron avec le virus. C'est pas que c'est un échec, mais ça ne va pas marcher. Hein, c'est comme l'union de la gauche. Enfin, c'est comme plein de trucs. Mais je rappelle la devise des Shadocks. En essayant continuellement, on finit toujours par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chance que ça marche. Donc bonne année à tout le monde, vive les ratages et c'est reparti les conneries.
Merci Guillaume Meury, c'était très bien cette chronique. Pour la fin, je dirais, il faudrait peut-être songer à vous renouveler, on est en 2022.
Ben on va voir les scores de la Belgique. Hein. Non, oui, c'est peut-être reparti pour ce...
C'est la bonne année. À venir Thomas VDB, hein, j'espère qu'il ne sera pas question de ce sujet.
Il commence à rayer des choses dans sa chronique.
Et avec nous, Stéphane Bach. Si la fête est finie, c'est qu'elle avait commencé à éteindre les lumières bien avant l'arrivée du pangolin dans nos vies. Il paraît que ça fait un moment qu'on s'est ramolli et que le Saturday Night Fever s'échoue lamentablement sur le canapé du salon. En 30 ans, 70% des boîtes de nuit ont fermé. On se mélange moins et on a privatisé les soirées en rapatriant la fête à la maison.
Bah alors Marco, qu'est-ce qui se passe ? On est samedi soir, il n'y a personne dans ta boîte.
Ah ouais, il n'y a personne. Mais ça, c'est le rentring, quoi.
C'est quoi ça, le rentring ?
Le rentring, c'est la nouvelle tendance, quoi. C'est genre les gens qui kiffaient venir en boîte de nuit, maintenant, leur kiff, c'est rentrer chez eux, quoi.
Ah, mais disons, c'est pas bon pour les affaires, ça, rien.
Ah, non, je fais avec, hein, mais regarde, vois, effectivement...
C'est vide.
Ouais. Mais...
Et on y trouve vous, les adeptes du rentring ?
Totalement, c'est chez eux. Ou alors, en chemin, quand ils vont, chez eux, quoi.
Bon, ben, j'ai plus qu'à me rentrer, moi, alors.
Ouais.
C'était un extrait de l'émission Paris Dernière. Stéphane, c'est vous qui avez repéré cet article du Monde. Ouais, avec trois glaçons, s'il te plaît. Et qui avait proposé ce sujet ? Pourquoi alors, Stéphane, ce sujet ?
Exactement, excusez-moi, ça m'a surpris cette voix. J'étais encore dans l'esprit de Magda. J'étais encore avec elle. Non, pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Parce que j'avais envie qu'on parle toujours de danse, qu'on reste dans l'esprit du twist, etc. Je voulais qu'on parle de tout ça. Mais au-delà de ça, c'est surtout qu'en fait, le titre de l'article, c'était « La bamboche est terminée ». Et le titre était un peu évocateur pour moi parce que c'était un moment où tournait nous le film à ce moment-là au Sénégal et c'était une sorte de connexion à la France. Et triste et force est de constater que 2 ans plus tard, la bamboche est réellement terminée. Je sens plus aucun désir, je sais pas vous, mais moi je suis en aucun désir de faire la fête.
Ah voilà, bon je me reconnaissais dans ce. 25 ans ?
Mais ouais, mais je me
reconnais. Vous êtes vieux maintenant.
Ouais, mais je crois que le Covid a mis un terme à tout ça, nous a aidé à nous prioriser un peu plus. En tout cas, je parle pour ma part. Ouais. Et je parlais il y a peut-être quoi, il y a deux jours avec un taxi parisien qui me disait que vraiment on sent une vraie descente. Son jeudi soir n'est plus le même, le samedi soir n'est plus le même. Il me dit que la ville parisienne n'est plus la même. Et c'est un phénomène qu'on a pu un peu tous sentir. Donc je voulais juste parler de ça parce que je me suis senti mourir. Moi, ces deux dernières années, je me suis dit, mais comme vous le dites, j'ai que 25 ans. Mais normalement, là, vous et moi, on est en train de twister. Normalement, on est au Titi Twister en train de twister comme des malades. Donc voilà, ouais. Je voulais vous parler de ça.
Et donc, quand on ne sort plus et qu'on se mélange moins, parce que chez soi, on invite généralement des gens qu'on connaît, l'altérité, c'est parce que vous la trouvez sur les tournages, peut-être, que vous en avez ressenti
moins. Il n'y a plus d'altérité dans ma vie, Charline.
Non.
Plus aucune. Je vis seule. Et puis d'ailleurs aussi, je me souviens.
Mais venez, on va faire une soirée ensemble.
Allez, faisons des soirées. Allez,
un mot un peu élégant, il lui a demandé comment il pécho. Alors, l'altérité, vous la rencontrez où?
Je ne vais pas le souligner. D'ailleurs, dans cet article, il y avait justement dans cet article une jeune femme, je crois qui était romancière, qui avait mon âge, qui disait justement qu'elle faisait que des soirées à part où on ne se draguait plus. Donc, une romancière de 25 ans, moi je suis très intéressé. J'espère qu'elle écoute France Inter ce soir. On est là, on est présent.
Vous allez devoir vous rencontrer assis parce qu'on ne peut plus être debout. Si vous vous rappelez quand même. Et pour terminer, dans le film, l'importance de ce lieu où vous faites du twist, de cette petite boîte, de ce maquis où on danse, qui tient un rôle quand même assez central dans le film, qu'est-ce qui traduit de cette époque-là ?
Qu'on pouvait faire la révolution et faire la fête en même temps. Voilà, et je pense que la révolution, c'est aussi un sujet aujourd'hui. Et peut-être que oui, là, il faudrait qu'on réactive la bamboche. À vous et moi, Charlie.
J'ai l'impression que la génération d'avant, il parlait de Castel, celle d'avant du Golf Drouot. Qu'est-ce qu'on dirait, nous, comme boîte, aujourd'hui à Paris? Je sais même pas.
Moi non plus, en vrai de vrai, parce que je fais le mytho, moi je sors pas du tout.
Hein. Ça fait vraiment. Il y a le Rex Club.
Ah, ben voilà, je vous attendais sur ce dossier.
Il y a Gibus. Attendez.
Je sais pas, il y a la cuisine de Guillaume Meurice. Le salon de Juliette Armand.
Mais chez moi, c'est la bamboche tous les soirs.
Il y a des bonnes bamboches.
Il avait popularisé ce mot de bamboche aussi, hein. Qui venait d'un préfet qui avait utilisé ce mot, il en avait fait une chronique mémorable. Il est de retour, cet homme avait des baies.
Oui, les amis, eh bien, moi aujourd'hui, je vais vous parler du film Netflix dont tout le monde parle en ce moment, c'est Don't Look Up, Regarde pas là-haut, pour ceux qui parlent pas anglais, avec Leonardo DiCaprio, pour ceux qui parlent pas italien, Leonardo DiCaprio. Alors, Don't Look Up, c'est un film sur des scientifiques qui disent aux dirigeants que ça va être la fin du monde de façon imminente, et les dirigeants ne font rien. Et donc, en le regardant, le film, on se dit, mais c'est des tarés! Mais en même temps, ça fait du bien de se dire ça en regardant une fiction, parce qu'habituellement, c'est exactement ce qu'on se dit, mais en regardant les infos. C'est vrai que là, ça fait quand même du bien. Et le film est vraiment super, parce que j'en parlais à un pote qui me dit, ah ouais, je vois, c'est une métaphore sur le changement climatique. Et il a dit, vraiment exactement comme ça. Je sais pas si ça aurait été possible de le dire avec un ton encore plus cynique et condescendant. Parce que les gens qui parlent de façon désabusée, pourquoi pas, mais quand c'est pour parler de la fin du monde, c'est un peu énervant quand même. Genre, ah ouais, ok, on va mourir dans d'atroces souffrances, so what, changer de disque, un peu, wow. Parce que c'est vrai qu'en prenant ce ton pour parler, tu peux tout trouver nul. Tu peux dire, ah t'aimes le foot, ah ouais, je vois, les gars qui courent après un ballon pour taper dedans, ça marche avec tout. Ah ouais, t'aimes le cache-cache, compter derrière un arbre, en attendant que tes potes aillent se planquer. Voilà, ça dépend des activités qu'on a, mais ça marche tout le temps. En tout cas, le succès du film, eh ben, il est encourageant. Parce que la majorité des commentaires sur Internet disent la même chose. Les gens disent wow, ça montre hyper bien l'inaction et notre l'inaction des gouvernements face à l'urgence écologique. Et d'ailleurs, ils sont un peu frustrants ces commentaires parce qu'on a envie de leur dire ok, ben du coup on fait quoi? Et les gens ils sont wow, on se rend vraiment trop bien compte de la gravité. Ah, ok, mais donc on fait quoi précisément? Et donc il y a plein de gens qui reprochent à côté de ça à Leonardo DiCaprio de faire un film écologique sur Netflix alors que le streaming ça pollue à fond. Et c'est vrai que c'est pas très écolo, on va dire quand même, de la part de Leonardo DiCaprio qui en plus dans un autre film a déjà tué un ours. Alors, mais on le sait tous, c'est vrai aujourd'hui, c'est vrai, le streaming c'est hyper énergivore. D'ailleurs pour limiter l'impact environnemental, regardez le film à plusieurs. Faites du covisionnage, voilà, comme ça c'est quand même moins polluant. Et parce que pour DiCaprio, évidemment, qui est hyper engagé dans les questions écologiques, quand on lui propose un tel projet, ben c'est un dilemme pour lui de jouer dedans. Parce qu'il fait un film qui participe activement au réchauffement, mais apparemment, qu'est-ce qu'il s'est dit, Leonardo, s'il fait « Eh, tant pis !»
Il a dit tant pis, comme ça. Alors, c'est pas cohérent, mais il fait ce qu'il veut. C'est vrai que c'est dur d'être cohérent tout le temps. C'est un peu comme moi, fine fleur de l'islamo-gauchisme de France Inter, qu'on me propose de jouer dans une série Canal. La partie de mon cerveau qui détient l'information que la chaîne appartient au groupe Bolloré passe encryptée. Vraiment, je suis là. D'accord, je suis pas le décodeur, désolé. Alors vous allez me dire, mais attends, mais tu te compares à DiCaprio, Thomas? Ouais. Mais c'est vrai qu'en même temps, regarder des photos de nos ventres il y a 10 ans, on a la même évolution. Vraiment, on l'a gonflé exactement de la même façon. Et puis, excusez-moi, mais si on fait le calcul en mettant en parallèle l'impact positif qu'aura le film Don't Look Up sur les consciences et la nuisance que représente le fait que Leonardo DiCaprio soit pas cohérent en tournant dedans, mais le résultat, excusez-moi, mais alors là, attendez, parce que j'ai une calculette, je prends ma calculette, je divise par le nombre d'électeurs écolo, voilà, donc le résultat, c'est 1,2. Et voilà, c'est quand même plutôt positif, 1,2. Alors ok, on sait pas exactement ce que ça représente, mais c'est ça l'avantage. Même si c'est un impact négatif, c'est pas énormément négatif. Bon. Je n'étais pas sûr de cette blague.
Mais bon. Il y avait l'accessoire calculette.
J'ai prévu une calculette,
c'était chouette.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut faire du streaming éco-responsable, eh ben moi je propose revenons au théâtre forain, au théâtre de forain. Comme ça on peut dire, oh, disons, hier j'ai vu un truc avec Matt Damon, il est venu faire Jason Bourne 3 sur la place du village. Je veux dire, on l'a commandé sur Uber Théâtre, il est venu en âne. On lui a mis 3 étoiles. Ah, mais j'ai mis 2 euros de pourboire. Vraiment, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est bien. Don't Look Up, c'est vraiment une fiction catastrophe qui fait bien flipper. Et c'est ça qui est fou, parce que si on regarde les documentaires sur l'écologie d'il y a 20 ans, ils parlaient des trucs qui allaient arriver dans 50 ans. Donc les choses graves qu'ils prédisaient, elles semblaient tellement éloignées qu'aujourd'hui, quand on les regarde de nouveau, ces documentaires, ils ont un côté presque rassurant. Moi, pendant les vacances, j'ai re-regardé Une vérité qui dérange de Al Gore qui date de 2006. J'ai une boîte de pied en éventail. C'est tranquillou, bilou. Vraiment, je trouvais ça magnifique. On avait des belles images de la banquise à l'époque. C'était quasiment la cuisine over. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rapproche de l'échéance. Et c'est la première fois, finalement, qu'un film catastrophe a autant une valeur documentaire. Parce que Armageddon, on se disait en le regardant, oh là, si ça arrivait, on serait mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde Don't Look Up, on se dit, oh là, quand ça va arriver, on va être sacrément mal.
Merci Thomas VDB et sa calculette.
Accessoire indispensable pour la réussite de cette chronique.
On aborde avec Stéphane Bach ce dernier thème. Est-ce que le communautarisme...
Enfin, des vrais thèmes.
Fait des blagues. Certains disent que le Jamel Comedy Club, c'est de l'humour communautarisme.
Qui dit ça?
Généralement, les conservateurs. Ce qui a propulsé des dizaines de jeunes stand-uppers issus de la diversité. Ce fut une révolution. Donc, c'est probablement positif comme terme, finalement. D'ailleurs, il y a davantage de diversité dans l'humour que dans le cinéma, sauf quand les humoristes font du cinéma.
J'essaie de te dire, c'est que Casépar ne met pas les Noirs en valeur. Ça va? Ça, tu comprends? Ça met pas les Noirs en valeur, c'est tout.
Parce que toi, dans tes films, tu mets les Noirs en valeur. En Première Étoile, tu mets les Noirs en valeur. Tu as vu Première Étoile? C'est une famille de Noirs qui part au ski et qui tombe le cul dans la neige. C'est bon cliché, les Noirs savent pas skier. Ils tombent, Première Étoile, on se fend la gueule. Et en plus, le mec s'arrête pas là. Il a fait Deuxième Étoile. Après, ce sera Troisième Étoile et Chamois d'Or. Des Noirs qui tombent le cul dans la neige. Après Spike Lee, Lucien Jean-Baptiste, défenseur de la cause noire. Merci, ça va, attends.
Pas toi, Fabrice, pas toi.
Quoi, pas moi? Tu critiques à moi? Attends,
toi, tu te fous de la gueule de l'esclavage dans tes films?
Non.
C'est ça que j'essaie de
pas
dire.
De
c'est tout. C'est moi, je fais pas de films sur l'esclavage.
Bah moi non plus.
Des films familiaux, un peu social, Darden, Ken Loach, un peu plus comique.
Ken Loach. Ken Loach. Des Noirs qui tombent le cul dans la neige. Ken Loach.
Et voilà. Et autour de cette table, on est 2 Noirs, 4 Blancs, et on a tous beaucoup ri à ce film fédérateur qui est tout simplement noir, le film de Pascal Zadi. Mm-hmm. On a entendu Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste. Alors Stéphane Bach, vous avez été humoriste, vous avez commencé sur scène, vous aviez quoi, 15 ans à peine?
13 ans.
Et c'est le Jamel Comedy
Club.
Avec
d'ailleurs, je tiens à le signaler avec la plupart des gens qui sont autour de cette table, c'est pour moi c'est une belle Madeleine de Proust, bien que je vous écoute de temps en temps. C'est beau de se voir tous ici, de voir la progression de chacun, l'évolution. Ouais. Je me souviens que Guillaume Meurice, je traînais avec Guillaume Meurice, j'avais 13 ans, il faisait déjà 2m12. Tout le monde faisait des blagues hyper tendancieuses sur notre amitié, mais il s'est rien passé.
Ça sort les dossiers.
Mais donc c'est vraiment le Jamel Comedy Club qui vous a poussé sur scène, qui vous a donné envie.
Absolument
donc,
pas.
Non, c'est pas. Non, c'est la légende qui raconte
non,
ça.
Non, quelle légende raconte ça? Non, pas du
bio,
tout. Non. Moi, j'étais influencé par tout ce que je pouvais voir. Ça pouvait vraiment. J'avais accès, voilà, comme tout le monde, à la télévision hertzienne. Je pouvais voir des proches à la télé être très touchés par cela, comme je pouvais aussi faire mes recherches moi-même et aimer le stand-up américain aussi. Le Jamel Comedy Club a contribué, bien évidemment, parce que pour nous, faut savoir que quand tu es en banlieue, que tu regardes la télé, que tu vois pour la première fois 10 comiques, justement, de la diversité, parler de sujets qui leur sont propres, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, et effectivement, ça pousse, mais il n'y avait pas que ça.
Ouais, ouais. Et ça a été une vraie révolution pour l'humour, d'ailleurs.
Ouais, et une révolution positive, d'ailleurs, parce qu'on parle tout le temps de la diversité avec le Jamel Comedy Club, mais ça a révélé des comiques comme Blanche Gardin, dont on se passe plus, je crois que le comte de Bouderbala, qui aborde multiples sujets sur scène, Fabrice aussi, etc. Je pense que les gens sont juste victimes de leur couleur de peau, on leur fait un faux procès. Le Jamel Comedy Club, il est beaucoup plus universaliste que ce qu'on peut dire.
Ouais, ouais. Et voilà, et aujourd'hui, vous êtes acteur, Stéphane Bach. Et donc, on va profiter de encore ce fonds humoriste-acteur pour vous faire jouer dans un sketch, si vous êtes d'accord.
Oh putain, merde.
Le fameux
sketch. Putain, mais c'est... Avec Guillaume Meurice en Emmanuel Macron. Comment ça s'est passé, l'affaire du drapeau? Charline et moi, nous sommes les conseillers... Comment dire? De longue date. Et vous êtes le petit nouveau pour conseiller Emmanuel Macron, on y va.
D'accord, waouh.
Bon, écoutez, on va se dire les choses, faut qu'on arrête les carabistouilles.
Ah, mais de quoi il parle là? Qu'est-ce qu'il raconte?
Il dit qu'on a merdé. Bon,
ouais. Ah d'accord, mais à quel sujet?
Sur l'histoire du drapeau sous l'Arc de Triomphe, enfin, les Français étaient tous ébobis.
Mais de quoi il parle?
Il dit que les Français étaient étonnés, voilà.
D'accord, mais pourquoi?
Parce qu'on a mis le drapeau européen et pas le drapeau français.
Oui, voilà, donc il faut qu'on change ça voilà, tout de suite, très très vite, trêve d'acagnardage.
Hein? D'acagnardage?
Ouais, alors ça veut dire arrêter de glander et proposer des idées pour rectifier le tir, en fait. Voilà.
D'accord, ok.
Alors, on a pensé à un truc...
Et si on retirait le drapeau européen pour mettre le drapeau français?
Ah non, voilà, mais surtout pas.
Ce serait répondre aux nationalistes en allant dans leur sens.
Non, surtout jamais prendre sa première idée sans avoir au moins réfléchi à trois autres. Même, même si c'est mon idée, quand même.
Oh, il est brillant. Il est brillant.
Eh bien, moi, j'ai bien une idée pour les surprendre. On peut remplacer le drapeau européen par un autre drapeau.
Ah, lequel?
Le drapeau LGBT?
Non.
Mais pourquoi?
Les Français ne sont pas...
Non, nous ne voulons pas de chicaïa.
Mais de quoi il parle?
Chicaïa, ouais, il dit qu'il veut pas d'embrouille.
Oui, il faut envoyer un message de modernité, mais dans la tradition française, faut rappeler aux gens qu'on n'oublie pas l'histoire de notre beau pays, quand même. Voilà.
Et ben si on veut se souvenir de l'histoire, j'ai bien une petite idée.
Alors allez-y.
On a qu'à mettre le drapeau de l'Algérie et là on est en plein dans l'histoire.
Non, les Français ne sont pas prêts.
J'ai l'impression que j'ai affaire à une sacrée bande de perlimpinpin.
Ça, j'ai bien compris.
Alors on a bien une idée.
Oui, et on a même une excellente idée.
Allez-y.
Le drapeau belge!
Les Français ne sont pas prêts!
Ils sont pas prêts, voilà. Non, on va remettre le drapeau français.
Mais pourquoi?
Mais parce qu'on a réfléchi à trois autres idées. Voilà, il faut toujours revenir à la première. Surtout si c'est la mienne. Voilà.
Il est brillant.
Je sais. Ben voilà comment la boucle est bouclée, Stéphane Bach. Vous finissez par rejouer.
Incroyable! Je me sentais au Paname de nouveau, c'est dingue.
Avec ceux que vous aviez croisés à votre début, lorsque vous aviez 13 ans, Alex, Guillaume et Thomas en avaient déjà 45.
On a essayé de le décourager, mais ça n'a pas marché.
Merci beaucoup. En tout cas, Stéphane, on était très heureux que vous soyez aussi notre premier invité de l'année pour donner le là de cette année.
Merci,
2020.
J'étais très heureux d'aller voir Twist à Bamako mercredi, c'est un film important.
Bien sûr, le film de Robert Guédiguian, il est en salle donc mercredi, avec aussi Alice Dalouse-Gomez, Sabo Baldé, Bakary Diombera, et on vous le recommande chaudement, les amis, n'hésitez pas. Restez assis dans les cinémas, bien sûr, si on le répète. C'est la fin de l'émission, je vous dis à demain, nous recevrons la comédienne Annaude Grimbert, et sinon, allez, elle était comment cette première émission de l'année?
Vous êtes chiant. Vous tournez tout en dérision. Vraiment, vous contribuez à l'abrutissement de la masse populaire, au nivellement par le bas.
Demain, j'enlève le haut.